l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 108. L'oubli des patients en psychiatrie sous les nazis en Alsace, Léa Münch. Chers amis, bonjour. C'est une période particulièrement dramatique en Alsace, l'indifférence officielle sur le sort des aliénés pendant le national-socialisme. Et aujourd'hui, comment disons-nous mais t'es fou, toi ? Ou quoi ? Mais vraiment, mais c'est de la folie, on devient dingue. Mais tu devrais aller voir un psy. Mais un cas comme toi, on l'enferme. Voilà, ce sont des petites expressions que l'on prononce sans y penser. Alors, notre émission, vous l'avez bien connue, ne marche pas sur les plates-bandes de la médecine et de la psychiatrie. Elle s'intéresse, et nos auditeurs le savent, au temps perdu, le temps qui passe. Elle s'intéresse aux gens que l'on croise, mais que l'on ne voit pas. Et quand je dis « vous l'avez bien connu », c'est avec un point d'interrogation. Ce sont parfois des gens qui sont derrière des murs. Et notre invité aujourd'hui, Léa Münch, a fait un énorme travail, alors c'est une thèse universitaire, sur, alors j'ouvre les guillemets, sur les fous. Hein, sur les fous qui sont derrière des murs. Bonjour Léa Münch.
Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
Alors je lis l'intitulé complet de votre thèse. Derrière les murs de la psychiatrie en Alsace, à l'époque du national-socialisme, parcours de vie entre Strasbourg et Hadamar. Alors, la psychiatrie et les nazis, il y a beaucoup de livres qui traitent de ce sujet, et pourtant, très peu d'études en Alsace. Pourquoi ? Pourquoi cet oubli en Alsace ?
Ah, c'est un peu dur à expliquer, mais je pense que l'Alsace annexée, c'est une région complexe entre deux frontières. Et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace est redevenue française. Et cette période de l'université à Strasbourg, qui est devenue la Reichsuniversität sous l'occupation, a été juste oubliée. Parce que c'était une université allemande sur le sol qui est devenue
français.
Français.
Oui. Alors c'était. Mais pendant l'occupation, l'Alsace était allemande.
Oui, oui. Mais après, c'est redevenu française. Alors c'était une affaire allemande et pas française.
C'est-à-dire que les Français après la guerre ne voulaient pas en entendre parler.
Oui, c'est exactement ça.
C'est pour ça que j'ai parlé d'oubli, c'est-à-dire qu'il y avait une culpabilité collective ou une indifférence collective ?
En France, on se focalisait plutôt sur les résistants, le résistantialisme. Ça, c'est un phénomène qui intéressait les Français dans les années 60-70.
Et sur les prisonniers politiques qui revenaient, et non pas sur la Shoah, et non pas sur le massacre, entre guillemets, des aliénés.
Oui, c'est exactement ça. Oui, oui.
Mais est-ce qu'il y a les mêmes études sur d'autres régions d'Allemagne ?
Oui, ça existe un peu, mais on sait beaucoup sur le système politique et la politique des nazis, mais on sait pas beaucoup sur les personnes qui ont vécu sous la psychiatrie, dans les institutions, les parcours individuels. Ça, c'est vraiment un sujet qui est quasiment une perspective, qui est quasiment inexplorée.
Alors pendant les 10 ou 20 années suivant 1945, on a peu parlé de... Bon, c'était d'abord la misère en Allemagne, en Alsace aussi. Donc les gens, la première chose qu'ils avaient envie de faire, c'était de se reconstruire, de manger et tout. Et puis ensuite vint le temps des témoignages. Même si les témoins n'ont pas parlé directement à leurs enfants, c'était plutôt à leurs petits-enfants. Bon, ce sont des sujets qui ont été développés maintenant. Les survivants ou les rescapés de la Shoah ont commencé à parler, à témoigner, ensuite à aller, alors dans les années même 2000, et puis jusqu'à maintenant, dans les lycées, dans les écoles pour parler. Est-ce qu'il y a eu la même chose avec les aliénés ? Ou est-ce que... Alors, il faut se demander aussi si physiquement, ils étaient possible de le faire, ou alors leur famille. Est-ce qu'il y a eu cette période de témoignage?
Malheureusement, pas du tout, parce que vous pouvez imaginer s'il y a une maladie chronique, on est resté, ou les personnes avec des maladies sont restées dans les asiles, dans les institutions, dans les établissements, et ils ont été cachés derrière les murs, probablement beaucoup des familles, il y a de stigmatisation, de discrimination, on ne voulait pas entendre les témoignages des personnes avec des maladies.
On ne voulait pas les entendre, mais... Est-ce qu'ils avaient, eux, envie de témoigner? Est-ce que vous avez des... Parce que vous en avez rencontré, hein, pour votre thèse. Bon, alors, je précise qu'elle a été récompensée par la Fondation Auschwitz, qui est basée à Bruxelles, et dont ce prix de la Fondation Auschwitz va certainement vous donner une notoriété et vous permettre d'éditer votre thèse. Alors d'habitude, on l'a réécrit en un peu plus court. Là, les 900 pages vont faire peut-être 200 ou 300 pages plus abordables pour le grand public. Est-ce que vous allez en faire un livre grand public?
Oui, ça c'est prévu. Cette année, je vais publier une version en allemand qui est plutôt pour le public scientifique, universitaire. Et après, j'ai prévu une version plus courte qui s'adresse au grand public de 200-300 pages à peu près.
Alors, quelle était la réception, non pas de vos professeurs hein, qui vous suivent, mais en fait du milieu scientifique plus général? Est-ce que quelqu'un s'est dit « Ah, c'est vrai, on n'a pas traité de ce sujet ?» Est-ce que vous avez des contacts avec les milieux universitaires et alsaciens? Votre thèse, vous l'avez faite à la fois à Strasbourg et Berlin, c'est bien cela?
Oui, j'ai fait mes études de doctorat ici à Strasbourg, à l'université. Oui.
Donc, on peut citer les professeurs, je crois qu'il y a Christian Bonnat.
Oui, exactement, Christian voilà. Bonnat.
Et donc, lui, bien sûr, on sait que c'était vraiment un spécialiste de ce sujet. C'est un médecin, d'ailleurs, hein, prof d'histoire. Mais est-ce que l'ensemble de la communauté universitaire de Strasbourg s'est intéressé à ce que vous avez fait? Oui,
tout à fait. J'ai travaillé au sein de la commission historique qui a été mise en place par l'Université de Strasbourg pour éclairer l'histoire de la Reichsuniversität. Et on a eu, ça fait, je pense, trois ans maintenant qu'on a eu une conférence.
La conférence
de presse.
Et qui était, je crois, présidée par Frédéric Naudu.
Elle a fait partie de la commission.
De la commission. Et puis le cercle Menachem Tafel aussi, qui a trouvé les noms des 85,
rescapés qui ont été gazés
pour faire une collection de squelettes. Bravo.
Exactement,
oui, voilà. Enfin, c'est un autre sujet, oui. Et donc, vous avez été, encouragé par les milieux scientifiques, médicaux à Strasbourg?
Oui, tout à fait.
Ou est-ce qu'on disait plutôt...
Il y a beaucoup de journalistes qui sont intéressés par le sujet. J'ai donné, je pense, à peu près... 5 interviews, ça se trouve dans les DNA, il y a vraiment une grande résonance publique.
Oui.
Et on peut dire ça, oui.
Donc c'est-à-dire qu'après l'oubli et après les murs, votre titre, nous sommes maintenant dans une période, alors c'est peut-être ce sont les enfants ou les petits-enfants hein, qui en parlent, et on commence à se demander qu'est-ce qui se passait là-bas, notamment à Stefansfeld, hein, au nord de Strasbourg. Alors, vous avez choisi 5 exemples de patients et vous en avez rédigé leur biographie, ce qui est un procédé assez original hein, pour une thèse. D'habitude, on ne fait pas ça. Hein. On fait un grand texte général. Pourquoi avez-vous choisi cette méthode d'écriture?
Parce que je me disais, je me suis intéressée au point de vue des personnes qui ont vécu la psychiatrie du côté des malades internés. Et j'ai retracé en détail leur parcours de vie avant leur première admission à la psychiatrie, en train de suivre les parcours dans les établissements et aussi après leur sortie ou leur décès. Et j'ai quand même contacté des membres de famille, des personnes qui ont décédé ou qui ont survécu pour, euh, pour explorer un peu les répercussions intergénérationnelles dans les familles. Qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant? Qu'est-ce qu'ils en savent
de leurs ancêtres.
Il y a, par exemple, il y a une famille en Alsace et leur oncle, il a survécu à un centre de mise à mort
de Hadamar,
qui se trouve en Allemagne. Et il est revenu après la Seconde Guerre mondiale, mais il était enfermé encore une fois à l'hôpital psychiatrique de Rouffach.
Alors, on peut raconter ce que vous dites dans votre thèse, dans votre livre. Donc, les aliénés alsaciens, donc de Rouffach, Hirth et Stefansfeld, étaient envoyés à Hadamar, c'est à 200 km à peu près d'ici, hein, c'est une petite ville près de Francfort, et ils étaient gazés. Et je pense que, si j'ai bien lu, ça avait commencé avant 1940.
Oui, ça c'était l'action T4, c'était appelé ainsi après la Tiergartenstrasse 4 à Berlin.
Oui, alors,
ça,
le nom T4 est assez connu, mais on ne sait pas l'origine du nom. C'est le nom de la rue où, je crois que c'est à Berlin, où ils ont décidé de gazer tous les gens inutiles, les aliénés,
oui,
les fous.
C'était le siège du bureau,
c'était
disons.
C'était Tiergartenstrasse Nummer 4, et donc ça s'est appelé T4.
Oui, c'est l'action T4.
C'est terrible comme...
Oui, c'est une expression interne pour cacher un peu les choses. Voilà. Mais l'action T4, c'était déjà fini. Et il y a un décret de Hitler qui a dit de ne pas travailler en Alsace, de ne pas inclure...
Ah, ne pas les gazer en Alsace, mais de les gazer en Allemagne, comment dire, intérieure, on ne dirait pas ça.
Mais... Oui, mais il ne voulait aussi pas les patients en Alsace inclure dans cette action. Mais après la fin de cette action, les meurtres de malades n'ont pas cessé. Mais on appelle ça plutôt une euthanasie décentralisée. Il y a juste une déportation des patients alsaciens vers un centre de mise à mort à Hadamar. Ça se passe en 1944. Il y a 50 hommes de Stefansfeld, que vous avez déjà évoqué, et l'autre asile alsacien de Hirth. Il y a aussi 50 personnes qui ont été envoyées à Hadamar.
Bon, il faut préciser également qu'il y avait une autre méthode de mise à mort, entre guillemets, c'est l'absence de soins, affamer les gens, on ne leur donnait pas à manger, ou très très peu, donc effectivement, ils mouraient d'épuisement, de maladie, et après on disait que c'était le cœur qui avait lâché. Alors, il y a des listes, il y a des registres, il y a des archives. Comment avez-vous fait pour choisir 5 noms parmi tous cette liste?
Juste pour ajouter un petit détail, à la clinique psychiatrique à Strasbourg, j'ai trouvé presque 3000 dossiers médicaux. Alors c'était vraiment un défi de choisir des biographies.
Et moi j'ai voulu... 3000 dossiers qui dormaient depuis 50 ans. Il faut le préciser, personne n'avait consulté.
Oui, c'était Christian Bonnat qui a sauvé les dosiers, on voulait les jeter. Mais
les vieux papiers, là.
Oui, exactement. Oui, ce sont des médecins, alors ce ne sont pas des historiens à la clinique. Oui, alors je voulais choisir des personnes très, très différentes, que ce soit une chanteuse d'opéra qui se retrouve à la clinique à Strasbourg, que ce soit un ouvrier alsacien, qui a perdu sa femme, qui a eu une dépendance à l'alcool. Il y a vraiment tous les milieux, dans tous les professionnels. Il y a beaucoup des bibliographies différentes.
Et quand vous avez fait votre choix, entre guillemets, par exemple, donc Louise Reuss, la cantatrice que vous venez d'évoquer, qui a été soignée par des électrochocs qui l'ont rendue encore plus... folle, pour dire le mot. Est-ce que vous saviez déjà qu'ils avaient des descendants ou des gens de la famille que vous pourriez interroger pour alimenter votre étude?
Au début, pas, mais j'ai lu beaucoup des dossiers médicaux et à partir de ça, c'était peut-être indiqué il y a de la famille ou pas, mais j'ai essayé dans peut-être 50 dossiers de trouver les familles, mais j'ai réussi que dans quelques fois.
Oui, et alors les témoignages des familles, comment ça se passait? Les gens étaient étonnés ou ils étaient contents que quelqu'un s'intéresse à leur ancêtre?
Oui, ça dépend. Pareil, je reviens vers cet exemple d'Alphonse Glanzmann, cet ouvrier alsacien qui est revenu, qui a survécu les meurtres de malades. Et j'ai trouvé dans l'annuaire de son ville d'origine, Lutterbach, près de Mulhouse, son nom, Glanzmann. Et j'ai envoyé une lettre à ses petites nièces et elles ont été bouleversées, choquées parce qu'ils ne savaient rien de ça. Sa vie de leur oncle, le fait qu'il a survécu, est vraiment devenu un secret de famille. Ils ne savaient rien, ils savaient qu'on a un oncle qui vit à Ruffach, mais après, ils ne savaient rien de son histoire, rien. Et maintenant, ils sont devenus des témoins, ils ont intervenu hier lors d'un séminaire à l'université en train de parler avec les étudiants. Et...
Alors comment se passe quand une jeune fille comme vous, étudiante, arrive chez eux et leur dit « je vais vous parler de votre famille ». Ça doit être quelque chose d'assez émouvant peut-être, non?
Oui, ils ont eu beaucoup de questions au début et c'était pas facile de comprendre que leur famille, leurs grands-parents, leur père... Ils ont caché cet oncle, il était raillé de la vie sociale, était vraiment enfermé dans les murs et il a joué aucun rôle dans leur famille. Il se trouve pas de traces dans les photos. C'était moi qui les envoyais la première fois une photo.
Alors...
De leur oncle.
Oui, ah oui, ouais. Parce que vous aviez retrouvé la photo dans un dossier.
Dans les dossiers médicaux, oui.
Oui, alors j'imagine que la première question qu'il vous posait, et moi j'aurais dû vous la poser tout de suite, c'est pourquoi vous vous intéressez, vous personnellement, à cette histoire?
Les deux ont travaillé à l'école, c'était un peu...
Non mais vous, ma question.
Ah,
oui.
Pas la famille,
vous,
d'accord.
Vous, pourquoi Léa Münch, vous vous intéressez à cette période, donc entre 40 et 45, de la psychiatrie sous les nazis en Alsace?
Alors le mal est déjà fait, ce qu'on peut faire maintenant, aujourd'hui, c'est de raconter les histoires de ces personnes concernées, des victimes.
Non, mais moi, je vais vous poser, alors j'insiste un peu, mais pourquoi vous personnellement, vous vous intéressez à ce sujet? Vous avez quelqu'un de votre propre famille qui était concerné?
Non, pas du tout.
Alors comment est-ce que vous avez choisi votre thèse, le sujet de votre thèse? Bon, c'est souvent un prof qui vous oriente un peu, mais quand même, vous deviez avoir une... Vous vous intéressez à la psychiatrie, par exemple?
Oui, c'est la psychiatrie et aussi les biographies, ça m'intéresse beaucoup. Que ce soit dans la psychiatrie ou dans les autres... qu'est-ce que ça veut dire devenir ou être un patient dans la psychiatrie? Ça m'intéresse beaucoup.
Oui. Ah, c'est passionnant comme démarche. Et vous avez fait cette démarche dès le départ. Quelles études avez-vous faites, si je peux demander?
Oui, j'ai fait mes études en médecine à Berlin. Et après, j'ai choisi...
Vous êtes médecin, donc?
Oui, à la base, oui. Mais je n'ai jamais travaillé à l'hôpital. Je me suis lancée directement après mes études dans les recherches historiques.
Donc, vous êtes un docteur et historien.
Exactement,
historienne.
C'est
voilà.
Ça, oui.
Voilà. Ah oui, c'est passionnant, un petit peu ce que le cursus ou le parcours de Christian Bonnard.
Enfin, on l'a déjà cité
plusieurs fois.
On peut dire ça, oui.
Oui. Alors, il y avait, j'ai feuilleté les 900 pages de votre thèse et votre résumé de 50 pages que j'ai lu vraiment passionnément. Je me suis dit, bon, j'ai passé une demi-heure dessus, j'ai passé 3-4 heures. Non, mais franchement, c'est un sujet intéressant. Il y a deux... catégorie de dossiers, si j'ai bien lu, les curables et les incurables. C'est pas les Curias et les Horace, mais c'est donc ceux qu'on peut estimer guérissables, et puis les autres qu'il faut... Bon, alors d'abord, d'un point de vue éthique pour un médecin, c'est intolérable, mais en même temps, comment expliquez-vous cette dichotomie, pour utiliser un mot un peu savant?
Oui, les personnes qui ont eu un traitement, qui ont été aptes au travail, après, il y a une sortie de l'établissement. Ça, c'était une distinction faite par les nazis pour dire une groupe de personnes qu'on peut guérir, aptes au travail. Elles peuvent sortir de l'établissement. Ce sont les personnes utiles et les autres qui ne peuvent plus travailler, qui pèsent juste sur l'argent et tout ça, on ne peut pas les guérir, ce sont les inutiles et on va les tuer au final.
Est-ce que cette distinction était nette aussi en Alsace? ce que Stefansfeld, on disait, les curables et les incurables, ou plutôt ceux que l'on peut guérir et ceux qu'il faut éliminer.
À Stefansfeld, c'était plutôt un asile qui remplissait la fonction traditionnelle d'internement des patients dont la pathologie évoluait vers une forme chronique. Mais le taux de mortalité à Stefansfeld n'augmente pas beaucoup. J'ai pas trouvé des indications que l'euthanasie nazie a été mise en place à Stefansfeld. Ça, je ne peux pas dire à partir
Et à Ruffach ou à Hurt?
À Ruffach n'était pas un asile pendant l'annexion. Mais à Hurt, j'ai trouvé des indices qui... Ce n'est pas vraiment une preuve, c'est juste une interprétation historique. Il y a des indications. Le taux de mortalité a beaucoup élevé. Et peut-être il y a eu des sédatifs surdosés, il y a de la négligence des soins.
La négligence, oui, c'est
oui,
ça.
Oui, vous
Alors,
avez,
est-ce que les patients étaient considérés comme des prisonniers?
À Hurt, il y a eu un quartier de sûreté et ils ont été enfermés là. Et
ils n'avaient pas le droit de rentrer chez eux?
Non, pas du tout.
Et est-ce qu'il y avait des cas où la famille venait en disant « je ramène le... » ma tante ou ma sœur ou mon enfant à la maison, c'était possible?
Ça, c'était possible, oui. Pas dans tous les cas. Il y a des cas où les médecins ont insisté. Non, cette personne est vraiment malade. La personne doit rester ici. Mais il y a aussi des cas où les familles sont venues pour des visites et après de...
Mais il y a d'autres cas aussi où les détenus ou les patients ont été déportés à Natzwiller.
Oui. Oui, ça, ce sont les Sicherungsverwahrte, les patients qui ont été au quartier de sûreté.
Oui.
Oui, il y a une trentaine de patients c'était en mars 1944, qui ont été transportés par la police au camp de concentration de Natzweiler, oui.
Et après la guerre, aucune famille n'a enquêté, quand même, je reviens à cette question initiale de l'oubli. Les familles se sont dit, mais où est-ce qu'elle est passée, ce membre de ma famille qui était à l'hôpital? On leur envoyait une lettre en disant, il est décédé, crise cardiaque.
Alors les Alsaciens qui ont été envoyés à Hadamar, la plupart est décédé. Il n'y a que 3 Alsaciens qui sont revenus après la guerre. Et les hommes dans ce transport vers ce centre de mise à mort ont été choisis par exprès, qui n'ont pas de la famille, qui n'ont pas de proches depuis longtemps, il n'y a pas de visites dans les asiles. Alors, on n'a pas exprès choisi des gens qui n'ont pas trop de liens sociaux.
Ah,
alors,
oui.
Il n'y a pas trop de
personnes. Donc, c'est délibéré. Oui, donc ça veut dire que... Et alors, est-ce qu'après la guerre, les médecins, le personnel soignant de Hurt, de Stefansfeld, là, donc au sud de Brumath, ils ont été, disons, interrogés, inquiétés, ils ont quand même collaboré avec les nazis. Est-ce que les médecins ont eu, il y a eu personne n'a porté plainte contre eux?
Oui, il y a eu des questions, bien sûr, et il y a aussi des... à l'épuration, il y a des questionnaires, il faut les remplir et tout ça, mais il n'y a pas des conséquences dures pour les médecins.
Non. Est-ce que certains médecins ont montré leur culpabilité, où on dit oui, non, franchement, on a fait quelque chose de dégueulasse. Enfin bon, ils ont quand même envoyé à la mort des patients.
Oui, en disant plutôt, on a fait notre travail, c'était notre métier, on ne savait rien ce qui se passait après la déportation. On a juste eu une ordonnance du ministériel, c'était ça, il faut suivre les ordres, c'est tout.
Le discours habituel de déculpabilisation.
Oui.
Voilà.
Oui.
Alors, Léa Münch, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini sa thèse? Quel est votre plan de carrière? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pendant 50 ans?
Je voudrais bien rester à l'université dans les recherches. Et moi, je suis encore en train de publier le livre qu'on a évoqué, ma thèse.
Oui.
Mais j'ai déjà un projet nouveau pour mes recherches qui porte sur une histoire de la ventilation artificielle. Ce sont des témoignages des survivants, des personnes qui ont survécu à une épidémie de poliomyélite. Mmh. Et ça, c'est un nouvel projet de recherche.
Alors, la poliomyélite, c'est une maladie qui est éradiquée aujourd'hui. Hein.
Oui, il y a plus... c'est ça.
Mais enfin, je me souviens quand j'étais au lycée, donc dans les années, fin des années 50, début des années 60, j'étais à Haguenau, ce qu'on appelait le petit lycée. Il y avait deux polios dans la classe qu'on considérait, enfin je me souviens, il y en avait un qui était en fauteuil roulant, il nous le prêtait pendant la récré, hein, donc on faisait les tours, mais c'était quelque chose de triste pour eux, mais c'était pas des gens, disons, ils étaient totalement acceptés, il n'y avait pas de... bon, ils n'avaient pas eu de chance, comme on dit, hein, mais c'était une maladie qui était quand même assez grave, parce qu'on ne survivait pas.
Oui, oui, ça peut arrêter, c'est qu'on n'arrive plus à respirer, au pire, et comme ça, on est placé dans une poumon d'acier. Je ne sais pas si vous connaissez
oui,
ça.
Oui, oui, oui. Et donc, vous allez travailler sur ce sujet. Oui,
oui, c'est exactement ça.
Voilà.
Oui.
Eh bien, écoutez, Léa Münch, merci beaucoup. On va attendre la publication de votre livre et peut-être on se retrouvera pour parler d'un autre sujet. Vous allez quand même sortir un peu de la médecine, non? Vous n'avez pas d'autre chose? Les papillons, Flaubert, la recette de la tarte au fromage, non? Il n'y a pas d'autre chose qui peut vous intéresser?
Ouais, je ne sais pas si ça marche à l'université, mais j'aime bien faire la cuisine à la maison. Oui.
En dehors de l'université, voilà. Alors, c'était l'épisode numéro 108 de « Vous l'avez bien connu », l'oubli des patients en psychiatrie sous les nazis en Alsace, Léa Münch. Merci de nous avoir donné toutes ces précisions sur cette période dramatique en Alsace. La semaine prochaine, nous recevrons un écrivain, Jean-Paul Savard, qui a fait ses études de journalisme à Strasbourg. Oui, le journalisme mène à la littérature. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin.